Le vent. On le sent sur notre visage, il fait bruisser les feuilles, parfois il gonfle une voile ou soulève la poussière. C'est une force de la nature qu'on connaît tous finalement. Et pourtant, d'où il vient, comment il fonctionne, ça reste un peu mystérieux, non? Qu'est-ce qu'il met en mouvement et qu'est-ce qui le guide sur sa trajectoire? Aujourd'hui, on va justement se pencher là-dessus, sur les mécanismes fondamentaux des vents météorologiques. Et pour faire ça bien, on s'appuie sur un extrait d'un script, assez détaillé, tiré d'une série sur la météo. Notre but, c'est de décortiquer ensemble ces forces invisibles qui orchestrent le vent, histoire de mieux comprendre ce phénomène de tous les jours. Alors, on y va? Explorons ça?
Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est passionnant de réaliser que, bon, derrière une simple brise ou même la violence d'une tempête, il y a toute une mécanique.
Une danse assez complexe de principes physiques bien connus. On parle de quoi? De différences de pression dans l'atmosphère. Et puis de l'influence subtile mais vraiment déterminante de la rotation de notre planète.
Cette exploration, elle va nous montrer comment ces forces, même si on ne les voit pas, dictent de manière assez logique où le vent va souffler. Et puis avec quelle force? C'est un peu comme, découvrir le mécanisme caché d'une orage, quoi.
D'accord. Alors commençons par le tout début, le moteur. Qu'est-ce qui lance le mouvement?
Le document qu'on a est très clair là-dessus. Tout part d'une tendance naturelle de l'atmosphère à rechercher l'équilibre. L'air, comme n'importe quel fluide, en fait, il n'aime pas être trop quelque part et pas assez ailleurs.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Donc, il va bouger spontanément des zones où la pression est haute, les fameux anticyclones, vers les zones où la pression est plus basse, les dépressions. C'est ça la force numéro un, le coup d'envoi.
Oui, c'est le point de départ fondamental, la force du gradient de pression.
Et il y a une logique assez simple apparemment. Plus cette différence de pression est marquée, entre deux endroits proches, c'est ça que les experts appellent le gradient de pression, c'est bien ça?
Oui, le gradient, exactement. La pente de pression, si on veut.
D'accord. Et donc plus ce gradient est fort, plus l'air va se dépêcher pour combler le vide en quelque sorte. L'analogie de l'eau qui dévale une pente, elle est pas mal. Une pente douce, ça fait un petit filet d'eau. Une pente raide, et hop, ça devient un torrent. Pour l'air, c'est pareil avec le gradient. Fort gradient, vent fort.
C'est tout à fait ça. C'est la force motrice initiale. Il faut imaginer l'atmosphère comme une grande masse d'air dont le poids varie. Là où l'air est plus froid, plus dense, il pèse plus lourd, haute pression. Là où il est plus chaud, plus léger, basse pression. Et naturellement, l'air va s'écouler du lourd vers le léger. Cette force, elle est toujours perpendiculaire aux lignes d'égale pression, les isobares qu'on voit sur les cartes météo, et son intensité, elle est directement liée à la distance entre ces lignes. Plus les isobares sont serrées,
plus la pente est forte.
Voilà, plus la pente est forte et plus le vent initial est puissant. C'est vraiment la base de tout.
D'accord, ok. Donc, l'air est poussé des hautes vers les basses pressions. Règle numéro 1. Mais c'est là que ça devient un peu plus subtil et vraiment intéressant, je trouve. Quand on regarde ce qui se passe plus haut, en altitude, loin des obstacles du sol, quoi. Le script dit quelque chose qui bouscule un peu cette idée de départ. Là-haut, le vent, il ne fonce pas tout droit vers les basses pressions. Non. Il s'écoule parallèlement aux isobares. Comment c'est possible, ça?
Ah oui, ça c'est le point clé.
Ce vent un peu idéal là-haut, qui n'est pas freiné. Il a un nom d'ailleurs, le vent géostrophique, c'est ça.
Exactement, vent géostrophique.
Et l'explication, ça fait intervenir une deuxième force importante, la force de Coriolis. Donc, on aurait un équilibre entre la force de pression, qui pousse toujours vers les basses pressions, et cette force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre.
Précisément. Alors, la force de Coriolis, attention. Ce n'est pas une force au sens physique habituel, comme la gravité. C'est une force inertielle ou apparente. Elle existe juste parce qu'on observe le mouvement depuis un système qui tourne, la Terre.
Ah oui, l'exemple du manège.
C'est ça. Si on est sur un manège qui tourne et qu'on lance une balle droit devant soi, pour nous, sur le manège, la balle semble dévier. Ben, pour une masse d'air qui bouge à la surface de notre planète en rotation, c'est un peu le même principe.
D'accord.
Et dans notre hémisphère, l'hémisphère nord, cette déviation se fait toujours vers la droite du mouvement.
Toujours vers la droite.
Oui. Et point important, hein, elle est nulle à l'équateur, maximale au pôle. Et elle est plus forte si le vent va vite ou si on est à une latitude élevée. Alors, en altitude, loin du sol, une particule d'air est mise en mouvement par la pression. Hop, elle bouge. En bougeant, elle subit Coriolis, qui la dévie vers la droite. Sa trajectoire s'incurve. Jusqu'à ce que, à un moment donné, cette force de Coriolis, qui agit vers la droite perpendiculaire au vent, s'oppose exactement à la force de pression qui pousse toujours vers les basses pressions.
Ah, elle s'équilibre !
Voilà, l'équilibre parfait. Les deux forces se compensent, le vent n'est plus ni accéléré ni dévié. Et il s'écoule alors comment ? Parallèlement aux isobares, avec les basses pressions à sa gauche et les hautes pressions à sa droite. Ça, c'est dans l'hémisphère nord.
C'est assez élégant comme équilibre, en fait. La pression pousse, Coriolis dévie, et hop, ça file le long des lignes. C'est donc ce vent géostrophique qu'on retrouve tout là-haut. Celui qui pilote les courants jets, par exemple.
Exactement. Le vent géostrophique, c'est une très très bonne approximation du vent réel dans la haute atmosphère. Disons au-dessus de 1000-1500 mètres. Là où l'influence du sol est vraiment négligeable. Comprendre ça, c'est crucial pour les météorologues.
J'imagine.
Pour les prévisions.
Oui, c'est la base de beaucoup de modèles. Ils calculent d'abord ce vent idéal, puis ils ajoutent les autres effets, comme le frottement, pour voir ce qui se passe près du sol. Et puis, c'est hyper important aussi pour l'aviation. Les avions de ligne, ils essayent de se caler sur ces courants rapides en altitude pour économiser.
Le carburant, le temps.
Exactement, très clair. Mais bon, nous, on ne vit pas à 10 000 mètres, revenons sur Terre. Près du sol. Là, le script introduit un troisième élément, beaucoup plus concret. Le frottement.
Ah oui, le frottement. Incontournable près du sol.
Les arbres, les bâtiments, les collines, même les vagues sur la mer, ça compte.
Bien sûr. Tout ça, ça freine le vent.
D'accord. Et alors, ce freinage, qu'est-ce que ça change à notre bel équilibre géostrophique de tout à l'heure ?
Logiquement. Si le vent est freiné, sa vitesse diminue.
Oui.
Et on vient de dire que la force de Coriolis dépend de la vitesse. Donc, si la vitesse baisse, Coriolis baisse aussi. L'équilibre est cassé.
Voilà, l'équilibre est rompu.
La force de pression, elle pousse toujours pareil vers les basses pressions. Elle ne change pas.
Du coup, elle reprend un peu le dessus sur Coriolis qui est devenu plus faible.
C'est exactement ça.
Et le résultat ? Le vent, qui filait droit le long des isobares en altitude, maintenant il est dévié, il penche un peu vers les basses pressions.
Oui, il traverse légèrement les isobares en direction des basses pressions.
Et le document donne même des chiffres pour cette déviation. Dans l'hémisphère nord toujours. Sur la mer, où c'est assez lisse, le frottement est faible, la déviation serait de 10 à 15 degrés seulement par rapport aux isobares.
C'est ça, environ.
Mais sur Terre, avec le relief, les forêts, les villes, le frottement est beaucoup plus fort. Le vent ralentit plus, Coriolis s'affaiblit encore plus, et là la déviation peut atteindre 20, 30 degrés, parfois même plus localement.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en surface, quand on regarde une carte météo, le vent ne suit jamais parfaitement les isobares, il les coupe légèrement. Et cette différence entre mer et terre, elle est importante. Un vent qui arrive de la mer vers la côte, par exemple, non seulement il va ralentir en touchant terre, mais sa direction va aussi un peu changer. Il va tourner un peu plus vers les basses pressions.
Ah oui, d'accord. C'est important pour les navigateurs, ça.
Crucial. Mais aussi pour comprendre les brises de mer et de terre ou comment les polluants se dispersent près du sol. Le frottement, ça ajoute une complexité qui rend le vent de surface beaucoup plus variable, turbulent que le flux régulier en altitude. C'est ce qu'on appelle la couche limite planétaire.
Je vois. Cette déviation systématique vers les basses pressions près du sol, à cause de ce trio pression, Coriolis, frottement, ça nous mène à une règle pratique, une sorte d'astuce mentionnée dans notre source, la loi de Buys-Ballot.
Ah, la fameuse loi de Buys-Ballot. Très utile.
Pour savoir où sont les dépressions et les anticyclones, juste en sentant le vent. Enfin, dans l'hémisphère nord, encore une fois. La règle, elle est simple, on se met dos au vent, celui qu'on sent, là, au sol, et alors, les basses pressions sont à gauche et les hautes pressions à droite.
C'est ça.
Et ça découle directement de ce qu'on vient de dire. Le vent au sol vient des hautes pressions, il est dévié à droite par Coriolis, mais comme le frottement affaiblit Coriolis, il est retourné un peu vers la gauche, donc vers les basses pressions.
C'est une règle incroyablement efficace pour sa simplicité. Elle date du 19e siècle, bien avant les satellites et EO. Christophe Buys-Ballot, un météorologue néerlandais, elle résume toute la physique dont on a parlé. La pression qui pousse, Coriolis qui dévie, le frottement qui modifie.
C'est un lien direct entre ce qu'on observe localement, d'où vient le vent, et la situation météo à grande échelle.
Exactement. Imaginez un randonneur dans le brouillard ou un marin, sentir le vent, appliquer buse-ballot, ça donne une idée d'où est le mauvais temps. Dépression à gauche ou le beau temps, anticyclone à droite. Ça aide à décider quoi faire.
Un bel exemple de science utile au quotidien. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée des forces et de la direction, parlons mesure. Comment on mesure, comment on représente le vent? Pour la vitesse, le script dit que l'unité de référence en météo, mais aussi en mer et dans les airs, c'est le nœud. Qu'est-ce?
Oui, le nœud.
Un nœud, c'est un 1000 marins par heure, environ 1,85 km/h. Pourquoi cette unité d'ailleurs, plutôt que les km/h ou ms?
C'est historique, c'est lié à la navigation maritime, aux cartes marines où les distances sont en 1000 marins. Comme la météo et la navigation sont très liées, l'unité est restée. Elle est pratique aussi parce qu'un degré de latitude, ça fait à peu près 60 000 marins. Ça simplifie certains calculs.
D'accord.
Les mètres par seconde sont aussi utilisés, surtout en recherche, mais le nœud reste la référence pour les bulletins météo, l'aviation.
Ok. Et le script précise aussi comment on mesure ce vent officiellement. La vitesse qu'on donne dans les bulletins, c'est mesurée avec un anémomètre à 10 mètres de haut sur un sol dégagé. C'est ça?
Oui, 10 mètres, c'est la hauteur standard internationale.
Et ce n'est pas la vitesse instantanée, c'est une moyenne sur 10 minutes. Pourquoi c'est standard?
C'est très important pour pouvoir comparer les mesures, d'une station à l'autre, d'un jour à l'autre. La hauteur de 10 mètres, ça permet d'être au-dessus des toutes petites turbulences juste au ras du sol, des effets du micro-relief. Et la moyenne sur 10 minutes, ça lisse les variations très rapides, les rafales, les accalmies. Ça donne le vent moyen, le vent soutenu.
Celui qui représente vraiment le flux d'air général.
Voilà. C'est ce vent moyen qui est pertinent pour comprendre la météo à grande échelle. Bien sûr, les rafales, qui sont des pics de vitesse très courts, on les mentionne souvent à part.
Ah, parce qu'elles peuvent être dangereuses.
Logique. Et sur les cartes météo alors, comment on voit ce vent moyen, sa direction et sa vitesse? Le document parle des barbules.
Oui, les barbules. C'est un système de représentation graphique.
Ça ressemble à une flèche sans la pointe, c'est un que ça. Il y a une ligne, la hampe. Son orientation indique d'où vient le vent. Par convention, le nord est en haut de la carte, l'est à droite.
D'accord.
Et au bout de cette hampe, du côté d'où vient le vent, on ajoute des petits traits ou des fanions. Ce sont les barbules.
Et ça, ça indique la vitesse. Comment ça marche, le code dedans?
C'est standardisé. Un demi-trait, c'est 5 nœuds. Un trait plein, c'est 10 nœuds. Et un fanion triangulaire, c'est 50 nœuds.
Et on additionne s'il y a deux traits pleins et un demi-trait?
Ça fait 10 plus 10 plus 5 égale 25 nœuds.
Simple.
Oui. Et il y a une petite subtilité. Les barbules sont toujours dessinées du côté des plus basses pressions par rapport à la hampe. Ça renforce l'idée du flux.
Ah, astucieux.
Et c'est très visuel pour les météorologues. En voyant des centaines de barbules sur une carte, ils voient tout de suite où l'air converge, où il diverge, où il y a des cisaillements. C'est un vrai langage.
D'accord. Et à côté de cette mesure en nœuds, et des barbules, le script mentionne vite fait une autre échelle, plus ancienne, basée sur l'observation. L'échelle de Beaufort.
Ah oui, l'échelle de Beaufort, c'est autre chose.
Quelle est sa particularité?
Elle est fondamentalement différente. Elle ne repose pas sur un instrument, mais sur l'observation qualitative des effets du vent. Principalement sur l'état de la mer, la hauteur des vagues, l'écume, mais aussi sur terre. Comment bougent les feuilles, les branches, est-ce qu'il y a des dégâts? Elle classe la force du vent en 13 degrés, de 0, calme plat, mer miroir, à 12, ouragan, tout est dévasté.
Donc c'est l'impact qu'on observe.
Exactement, son intérêt c'est ça, décrire l'impact concret. Un marin, même sans anémomètre, peut estimer la force Beaufort en regardant la mer. Par contre, attention, elle n'est pas du tout linéaire par rapport à la vitesse en nœud. L'écart de vitesse entre Beaufort 2 et 3 est beaucoup plus petit que l'écart entre Beaufort 9 et 10.
Ah oui. Pourquoi?
Parce qu'elle est plutôt basée sur l'énergie du vent, qui est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc c'est une échelle d'intensité des effets. Très utile pour la sécurité, pour l'appréciation générale, mais moins précise pour les calculs que le nœud.
Fascinant de voir ces différentes manières de décrire le vent. Bon, alors, si on devait résumer un peu tout ça, les points clés de notre exploration, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir sur les mécanismes du vent? Premièrement, le moteur, différence de pression. L'air va des hautes vers les basses pressions. Ça, c'est la base.
Oui.
Iolis dévie ce mouvement vers la droite, dans l'hémisphère nord. En altitude, loin du sol, cet équilibre pression-Coriolis donne le vent géostrophique, parallèle aux isobares.
C'est ça.
Troisièmement, près du sol arrive le frottement. Il ralentit le vent. Du coup, Coriolis faiblit et le vent est dévié vers les basses pressions. D'environ 15 degrés sur mer, 30 degrés sur terre en gros.
Voilà.
Quatrièmement, cette déviation au sol explique la loi de Buisballot. L'astuce pratique, dos au vent, basse pression à gauche dans l'hémisphère nord. Et enfin, on mesure la vitesse en nœuds, moyenne diminuée à 10 mètres. On représente ça avec les barbules sur les cartes. Sans oublier BFO pour l'intensité des effets. On a fait un bon tour, je crois.
Oui, en effet. Et c'est une bonne base pour comprendre le vent qu'on ressent tous les jours. Mais, comme souvent en science, comprendre quelque chose soulève de nouvelles questions, non ?
Ah oui, par exemple.
Ben, on a beaucoup parlé de l'hémisphère nord pour Coriolis et Buisballot. Déviation à droite, basse pression à gauche. Ça amène naturellement à se demander, et dans l'hémisphère sud, là où Coriolis dévie vers la gauche, comment ça s'inverse ? La loi de Buisballot deviendrait dos au vent, basse pression à droite.
Bonne question.
Tri, il y a une question encore plus large. Comment ces vents locaux qu'on vient de décortiquer avec leurs histoires de pression, de coriolis, de frottement, comment tout ça s'intègre dans les très grands systèmes de circulation de l'air qui parcourent toute la planète ? Les alizés, les vents d'ouest, les grandes cellules atmosphériques. Quel rôle jouent ces mécanismes de base dans la grande machine climatique globale qui répartit la chaleur sur Terre ? Voilà, peut-être une piste pour continuer à réfléchir à la dynamique fascinante de notre atmosphère.